L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Dieu est ici ce matin. Si vous marchez dans votre vie et puis vous vivez toutes sortes de difficultés, je peux vous laisser savoir, bien vous n'êtes pas tout seul. Des fois, on peut passer par des épreuves, des temps difficiles, et on s'imagine, je suis le seul à vivre ça. Et peut-être aujourd'hui, vous vivez sous toutes sortes de choses qui viennent vous écraser, où vous voyez noir, où les choses semblent vraiment, comme il y a pas d'espoir. Vous marchez, puis on dirait que ça fait longtemps que vous êtes dans un grand corridor noir, de noirceur, avec toutes sortes de pensées négatives qui vous reviennent. Aujourd'hui, le thème du message, c'est vraiment, il y a la lumière au bout du tunnel. Et on va vous parler de cette lumière tout au long de la réunion. Si vous êtes un enfant de Dieu depuis longue date, vous savez déjà qui est la lumière du monde. Son nom est Jésus. Mais des fois, on a besoin de se rappeler de ces choses-là, se rappeler qui est Seigneur Jésus vraiment pour nous. Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 22 et verset 31. Luc 22 et verset 31. Ici, on voit Jésus qui annonce le reniement de Pierre, qui est en fait un grand homme de Dieu. Mais si Jésus, il parlait à Pierre juste avant le reniement. On va pencher nos têtes premièrement, avant la lecture. Père éternel, on vient devant toi ce matin. Et Seigneur, je veux prier pour ce temps maintenant, comme on va étudier ta parole, comme on va s'exposer ce matin à ta parole. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui est dans cette maison. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, pour les gens que tu vas délivrer, parce qu'en toi, c'est déjà accompli. Et Seigneur, on veut te remercier aussi pour ta bonté pour chacun d'entre nous, que tu ne veux pas nous laisser dans les ténèbres, mais tu veux nous faire sortir et qu'on puisse voir ta lumière. On a prié au nom de Jésus. Amen. Dans Luc 22, verset 31, il est écrit, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Je vais vous lire avec des commentaires qui veut dire, quand c'est écrit « pour vous cribler », ça veut dire « pour vous secouer par agitation interne, essayer de renverser la foi de quelqu'un ». Ici, Jésus parle à Pierre. Il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer par agitation interne, essayer de renverser votre foi ». Vous savez, quand on est secoué comme ça, des fois, c'est invisible parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et des fois, c'est par nos pensées où l'ennemi vient dans nos pensées. Et là, en dedans de nous, on sent, comme j'ai dit il y a quelques instants, on peut se sentir tout croche en dedans. Peut-être que vous avez déjà passé par un moment comme ça, un moment plus difficile où vous vous sentiez tout à l'envers. Il dit ici, comme le froment, comme on renverse ou secoue le grain pour se séparer de la paille. Ça veut dire qu'on est vraiment secoué. Et c'est ça le désir de l'ennemi, c'est de cribler, secouer l'enfant de Dieu. Et dans 1 Pierre, là on retrouve Pierre, chapitre 5, verset 8, il nous avertit, il dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, là on sait c'est qui, c'est pas Dieu, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, il rôde, il se promène autour de vous. Il se promène dans les églises, voyant qui je peux dévorer, comme un lion rugissant. Mais en fait, ce n'est pas un lion, c'est comme un petit minou, pas de dents. Parce que Jésus a eu la victoire à la croix. Quand vous pensez au diable, pensez à un petit minou qui n'a aucun pouvoir sur vous, aucune puissance, mais il peut faire bien des bruits. Il peut aller miauler très fort, miauler pour vous faire peur. Mais Jésus a déjà gagné la victoire à la croix, il y a 2000 ans. Mais ici, on voit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et aujourd'hui, si vous avez été dévoré par l'ennemi, par toutes sortes de façons, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'il y a vraiment la lumière au bout du tunnel. Vous allez pouvoir en vous en sortir. Une des choses, comprenez que notre plus grand ennemi, même si on parle de l'ennemi qui rôde autour de nous, parfois, notre plus grand ennemi souvent, c'est nous-mêmes. En méditant sur des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que l'ennemi, lui, peut venir, il va venir semer une pensée, mais après, si nous, on entretient cette pensée-là, là, on devient notre pire ennemi. Parce que lui, l'ennemi, il est venu semer, mais là, il nous laisse là-dedans. Il nous laisse dans le mensonge. Il nous laisse dans les inquiétudes. Il nous laisse dans toutes ces choses-là. Et là, si on se laisse avoir comme ça, si on pense noir, si on pense dans les ténèbres, devinez qu'est-ce qui va se passer. On va vivre dans les ténèbres. Une des façons, des fois, où l'ennemi attaque, il va dire à quelqu'un, « Personne t'aime, toi. » T'es seul au monde. Et quand des fois on pense aux gens qui sont tentés par le suicide, souvent c'est comme ça, c'est des esprits méchants qui viennent et qui sont là et qui font accroire à la personne, personne t'aime. Et là, la personne reçoit ce mensonge-là et le pense, personne m'aime. Et puis là, la personne marche dans sa vie. De l'extérieur, elle peut avoir un beau sourire, elle peut bien paraître, bien vêtue, tout ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dedans. Mais en dedans, c'est personne m'aime. Je suis tout seul au monde. Vraiment, il n'y a personne qui m'aime au monde. Ou d'autres personnes ont entendu le rapport négatif peut-être d'un parent, « T'es bon à rien. » Il y a des parents des fois qui parlent comme ça, qui maudissent leurs enfants, comme « T'es bon à rien. » Et là, l'enfant croit ça. Et pendant sa vie, tout au long de sa vie, la personne marche croyant « Je suis bon à rien. » Personne m'aime. Et là, ça reste là. Et ça vient ancrer, ça fait des blessures intérieures. Et après un bout de temps, on dit « Mais là, c'est noir ma vie, c'est juste, j'ai pas d'espoir. » Mais avec Jésus ce matin, je peux vous dire, il y a de l'espoir. Dans Proverbes chapitre 17, verset 22, il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Ça, c'est le fun, ça, n'est-ce pas? Et les gens, des fois, quand ils souffrent d'un cancer, les médecins vont leur dire « Écoutez beaucoup de films drôles. » Avez-vous déjà entendu parler de ça? Écoutez beaucoup de films drôles. Parce que même scientifiquement, nos corps là, sécrètent des hormones de bonne humeur qui guérissent la maladie. Ça, c'est juste scientifique. Mais spirituellement, c'est-à-dire un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut venir nous abattre dans notre esprit. Il veut nous écraser, nous faire voir d'une façon vraiment sombre, qu'on soit vraiment découragé. Mais heureusement, on a une solution en Jésus. Des fois aussi, l'ennemi peut venir avec des craintes, des angoisses. Vous venez vous angoisser. Vous savez, il y a des gens qui prennent la médication, des fois juste parce qu'ils sentent tellement mal en dedans, ils se sentent angoissés. Ils ne savent pas comment aller de l'avant sans les médicaments. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, le Seigneur Jésus est capable de venir vous libérer de ces angoisses. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Dans Jean chapitre 8, on a passé assez de temps maintenant pour parler de la noirceur. Parce que vous savez, si vous êtes arrivé ici et vous avez des vraies épreuves, des choses difficiles à surmonter, bien aujourd'hui, on ne passera pas une heure à vous parler des épreuves, parce que je sais que dans la vie, on a tous eu, on a tous connu des choses difficiles. Mais là, l'heure est arrivée pour nous, on va relever la tête. Et puis au bout du tunnel, il y a de la lumière. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va regarder vers la lumière. Parce que vous allez sortir de cette place libéré. Vous savez, l'ennemi peut venir, il peut semer des pensées, il peut vous garder captif comme ça. Mais ça, c'est parce qu'on le laisse faire. Parce que légalement, Satan a été totalement vaincu. Donc aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de se laisser écraser. On peut relever la tête. Mais je peux vous dire, des fois, il y a des choses qu'on va voir ensemble. C'est vraiment comment respirer, comment aller de l'avant, comment... Vraiment se libérer de ces choses qui viennent nous écraser. Une des choses qu'on peut faire, moi, je peux prier sur mon ballon d'exercice, comme vous savez. Ça, c'est mon refuge, c'est ma place où je me prends comme ce temps-là spécial avec Dieu. Et puis, je suis là juste pour connecter avec l'Esprit de Dieu. Et des fois, ça peut être une heure dans la prière, deux heures, des fois trois heures à prier en esprit. Parce que des fois, on ne sait pas quoi dire. On prie en esprit, et là, le Seigneur, il nous change, il nous transforme, et tout ce qui était là de noirceur disparaît. Et là, on peut voir que le Seigneur agit et il intervient dans nos vies. Dans Jean 8, verset 12, il est écrit, en parlant de Jésus qui parlait, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Je vais vous relire ce texte-là. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit... » Imaginez, Jésus, qui est la lumière du monde. Et ça fait du sens. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, si vous voulez sortir des ténèbres, si vous vivez toutes sortes de choses difficiles et puis vous voyez toujours noir, vous êtes découragé, il y a cette promesse de Dieu qui est là, et puis vous dites, ben ça fait longtemps que je m'attends à Dieu, et puis je suis découragé, je comprends pas pourquoi je vis pas telle chose en ce moment, bien relevez la tête et gardez vos yeux sur le Seigneur Jésus, parce qu'il est la lumière du monde. Et puis, quand vous allez suivre le Seigneur Jésus, vous ne serez pas dans les ténèbres, parce qu'il éclaire votre chemin. Quand vous suivez la lumière, vous êtes vous-même dans la lumière. N'est-ce pas merveilleux? Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour vous d'être découragé, d'être dans les ténèbres. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, heureusement, Jésus se rend disponible pour tout le monde. Il veut que vous soyez avec lui. Donc, comme on a chanté le chant aujourd'hui, on a chanté, je ne me souviens plus des paroles, mais je te donne toute ma vie. Si vous avez chanté ce chant-là avec foi, à ce moment-là, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Savez-vous ça? Des fois, on attend, on dit, bien là, il faut que je fasse une prière spéciale. Mais si, quand on a chanté ce chant-là, et vous avez dit, je donne toute ma vie à Dieu, comme on a chanté, bien Dieu l'a entendu. Et vous êtes devenu un enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Quand ça vient du cœur, c'est pas une formule magique, être un enfant de Dieu. C'est de céder notre vie à Jésus-Christ et dire, je te donne ma vie, pardonne-moi, lave-moi. Et là, le Seigneur nous adopte dans sa famille. C'est merveilleux. Dans Jean 8, verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ça que le Seigneur veut pour vous aujourd'hui, que vous puissiez vraiment connaître la vérité. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut avoir la vérité de la parole de Dieu, mais si la vérité est, si elle demeure pour nous cacher, même si on l'a, même si on possède la Bible à la maison, comme plusieurs personnes ont plusieurs Bible en plus, mais si on ne connaît pas la vérité de la parole de Dieu, on va vivre dans le découragement. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu et on va voir ce que Dieu nous dit pour qu'on puisse vraiment être affranchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous rendre libre aujourd'hui. Si vous êtes conscient que vous êtes arrivé à l'église ici avec un esprit d'abattement, le découragement, peut-être vous n'étiez pas totalement découragé, mais peut-être vous êtes dans une situation pénible, difficile. Des fois, on a des difficultés. Je veux que vous soyez conscient de l'état dans lequel vous êtes rentré. Et maintenant, préparez-vous à changer. Préparez-vous à recevoir de Dieu. Amen. Je vous dis ça, préparez-vous à recevoir. Comme j'ai dit il y a quelques instants, vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu surnaturel. C'est pas un Dieu de plâtre. Quand on rencontre Jésus, qui est la lumière du monde, il va y avoir un changement. Il va faire un miracle dans nos vies. Il va transformer notre cœur. Il va faire des miracles et il va le faire aujourd'hui. Je suis ici, je suis pas là ce matin pour parler, pour m'entendre parler. J'ai parlé beaucoup hier. J'ai prié beaucoup hier. Je suis fatigué. Je suis pas là ce matin. Juste pour m'entendre parler. Je suis là ce matin parce que je sais que le Seigneur veut libérer des captifs. Il veut vous délivrer ce matin. Il veut que vous puissiez quitter cette place, rencontrer de lui. On va voir ensemble comment vous pouvez vraiment être affranchi aujourd'hui. Affranchi de la crainte. Ça, c'est une des choses souvent qui vient contre nous, qui nous enlève notre joie de vivre, qui est là, qui nous garde découragés. On va aller ensemble dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Et on va aller au premier verset. Ésaïe 43, en allant au premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Dites, ne crains rien. Amen. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrassera pas. Ici, là, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Le Seigneur, aujourd'hui, vous appelle spécifiquement, il vous appelle par votre nom. Ce message, aujourd'hui, s'adresse à vous. Tu es à moi. Quand on appartient à Dieu, peu importe les mensonges de l'ennemi, peu importe les vents contraires, quand on est avec le Seigneur, on est dans la lumière. Peu importe les émotions qu'on peut ressentir, le Seigneur est là. Et on a sa promesse. On ne devrait pas avoir la crainte du danger. mais on peut être affranchi aujourd'hui. Souvent, c'est ça qui nous garde dans toutes sortes de problèmes. On a une perspective noire parce qu'on a peur. On a peur du manque. On a peur que le Seigneur va nous abandonner. On a peur de 10 000 choses. Il y a plein de raisons que l'ennemi va venir et puis il va nous semer la crainte. Il y a des gens qui ont peur de tout. Et peut-être vous êtes là et vous pensez, ben ça c'est moi. Souvent j'ai peur de si j'ai peur de perdre mon emploi ou si, admettons, j'ai peur de perdre mon argent. Ou vous avez peut-être de l'argent, ben là j'ai peur d'un voleur la nuit. Vous savez, il y a des gens qui sont remplis de crainte. Et quand on est rempli de crainte, au lieu de voir la lumière devant nous, on voit la noirceur. Mais on peut être libéré. Vous faites affranchir aujourd'hui de la crainte du manque. Pasteur Jérémie en a parlé un peu, mais on va voir ça ensemble. Dans le psaume 37 et le verset 25. Le psaume 37 et le verset 25. C'est un verset absolument merveilleux. On peut se poser la question, est-ce que je devrais avoir peur de manquer quelque chose quand je suis un enfant de Dieu? Ici, le témoignage du psalmiste dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Si vous êtes un enfant de Dieu, ne craignez jamais le manque. Ne craignez pas d'être dans la rue et de ne pas rien avoir à manger. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Seigneur va toujours prendre soin de vous. Je peux vous dire, on a vu la main de Dieu tout au long de notre vie. On a vu la fidélité de Dieu. Quand les choses semblaient comme c'est impossible, Dieu s'est toujours présenté comme étant ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est là pour prendre soin de nous. Il connaît notre cœur, il connaît notre amour pour lui. Et le Seigneur, vous savez, il a cet amour aussi pour chacun d'entre nous. Des fois, on pense, on fait juste vivre la vie chrétienne, on est dans une routine, on va à l'église. Mais non, on marche littéralement avec le Créateur de l'univers. À chaque jour de votre vie, quand vous vous réveillez et vous êtes là, vous êtes dans la présence de Dieu, celui qui vous a créé est là à côté de vous. Et si vous êtes là puis vous pensez, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai un compte d'Hydro-Québec qui arrive ou j'ai telle chose qui s'en vient, qu'est-ce que je vais faire? Rappelez-vous que celui qui vous a créé, qui a créé la terre, le ciel, les étoiles, il est là dans votre vie. Vous n'êtes jamais seul. Donc, si vous êtes accompagné de celui qui a toutes les réponses possibles, est-ce qu'on devrait avoir une crainte, une peur? Non. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, je vais vous donner d'autres versets concernant la paix que Dieu veut vous donner. Parce que des fois, on peut parler de ça, on peut parler comment ça veut nous libérer de ces choses-là. Mais quand on découvre ce que Dieu nous dit dans sa parole, on voit qu'il nous donne vraiment une façon de vivre dans la paix. Ici, il nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Je vais vous relire. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Vous savez, je me souviens de ma tante, une de mes grandes tantes. Elle avait des enfants, mais était très, très pauvre. Et puis, comme elle était là à la table, ses filles disaient, « Maman, on aimerait ça manger des pommes. » Et pour nous, manger des pommes, on dit, « Bien, c'est rien d'extraordinaire. » Mais pour ses enfants, eux, ils voulaient manger des pommes. Et la mère, elle n'avait pas l'argent, elle n'avait pas les moyens de s'acheter des pommes. Mais elle a décidé de mettre en pratique ce texte-là. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, même pour des pommes, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Et je me souviens de ma tante, elle m'a raconté ce témoignage-là. Elle était assise autour de la table, pris les mains de ses filles. Elle a dit, « Seigneur, on aimerait ça manger des pommes. » La porte frappe. Quelqu'un qui frappe à la porte. Quelqu'un qui dit, la porte frappe, ça serait bizarre. Quelqu'un frappe à la porte. C'est un vendeur de pommes, imaginez. Et puis là, le monsieur, il veut vendre ses pommes. Ma tante est là. Elle dit, « Ah, monsieur, on aimerait vraiment ça. Bien, désolé, ça ne sera pas possible pour nous aujourd'hui. » Et là, le monsieur, il dit, « Bien, en fait, j'aimerais ça vous les offrir. » Il venait de prier, et là, le Seigneur a envoyé un vendeur de pommes pour leur donner des pommes. Quand ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, vous êtes dit, « Ouais, mais priez pour des pommes. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des pommes, Dieu, là, vous savez, est tellement préoccupé avec nous. Même un besoin comme ça, qui peut sembler tellement simple, mais le Créateur de l'univers qui sait faire pousser ces pommes-là, il sait aussi comment les rendre dans votre frigidaire ou sur votre table. Amen. Donc, ne vous inquiétez jamais. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Remarquez ce que ça dit. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, on remercie Seigneur même avant de les recevoir. Merci Seigneur Dieu pour les pommes qui arrivent. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez bien ceci. Et la paix de Dieu. Avez-vous besoin de la paix de Dieu? Quand on est dans la noirceur, là, des fois, on n'a pas cette paix-là. On est rempli de crainte, toutes sortes de choses difficiles en dedans de nous. Mais ici, ça dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Des fois, ça ne fait pas de sens, humainement parlant. Je peux vous dire souvent avec Dieu, ça ne fait pas de sens. Mais là, c'est la clé. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, ça, on parle de votre esprit, et vos pensées en Jésus-Christ. On a besoin de vivre ça, enfant de Dieu. On peut aller à l'église et avoir notre routine, mais c'est une chose que le Seigneur nous appelle vraiment à mettre en pratique. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le Seigneur a besoin de ça? Non, c'est parce qu'il nous aime. Dieu vous aime et il veut que vous soyez dans la paix. Il veut pas que vous soyez dans le découragement parce que vous n'avez pas appliqué cette chose-là. Mais si vous le faites, si vous écoutez ce texte-là, en fait, c'est pas une suggestion, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, dites de rien. » Là, demandez à votre cerveau d'enregistrer ça. De rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, que ce soit des pommes, que ce soit l'épicerie, que ce soit votre compte d'Hydro-Québec, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous voulez avancer dans votre marche chrétienne dans la paix, c'est obligatoire de pratiquer ce texte-là. C'est absolument obligatoire. C'est impossible de vivre dans la paix et de vivre juste dans le naturel, de garder nos pensées juste dans le charnel et dans les choses qu'on voit. Je peux vous le dire, si vous voulez arriver à vivre dans la vie chrétienne avec l'espoir, en gardant vos yeux sur le Seigneur Jésus qui va éclairer votre chemin, qui est la lumière, vos yeux doivent toujours demeurer sur le Seigneur Jésus. Parce que dans le Seigneur Jésus, on peut dire, « Ah, mais ça fait pas de sens que le Seigneur va entreprendre de telle façon. » Et je peux vous dire, c'est vrai que ça ne fait pas de sens. Humainement, mais avec l'Esprit de Dieu, ça fait du sens. Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prends beaucoup de temps, savez-vous, aujourd'hui, et c'est correct. Parce que des fois, on a besoin de digérer, laisser ça descendre. Peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez, vous dites, oui, mais je connais ça, pasteur Joël. Mais c'est pas le connaître dans notre tête qui change notre vie. C'est le connaître dans notre cœur. Là, ensuite, ça continue. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ben, on parle de la vérité. Devinez où on peut trouver la vérité. La parole de Dieu. Là, ça nous dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et là, j'ose me répéter, là, on a besoin de recevoir cette vérité-là. L'objet de nos pensées. Là, pourquoi? Parce qu'au verset 9, ça dit, « Ce que nous avons appris, là, vous avez appris peut-être, mais là, ça dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. » Ici, on voit le psalmiste, là, qui nous, l'apôtre Paul, ici, qui dit, « Ce que vous avez vu en moi, donc, qui nous démontre que c'est possible à faire. » Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Remarquez ceci, là, c'est super important. Ça dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Des fois, on peut dire, bien, ici, oui, je sais qu'on n'est pas supposé de s'inquiéter, je sais que c'est écrit, je connais ça, je sais qu'il faut garder nos yeux sur le Seigneur pour être dans la paix, je le sais. Et je sais que mon cœur et mes pensées sont vraiment toujours dans le Seigneur, je vais être dans la paix, je sais. Mais ici, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous de reconnaître, c'est que c'est pas juste écrit et comme quoi c'est un objectif là, final, oui, à la fin de nos jours, on va peut-être y arriver. Ici, on voit dans la vie de l'apôtre Paul, au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Ça veut vraiment dire que c'est possible de l'atteindre. C'est possible de faire ça. Justement, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est possible pour vous. Ensuite, il nous dit, pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix, celui qui est là à côté de vous, le consolateur, le Dieu de paix, il sera avec vous. Et vous allez voir, la vie chrétienne est beaucoup plus facile à vivre si vous restez toujours connecté avec Dieu et si vous résistez à la tentation de vous inquiéter. Mais pour y arriver, une des choses que vous avez absolument besoin, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, ça nous dit ici, mais vous savez déjà que Dieu est amour, amen, Dieu est amour. Là, ça dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. En anglais, ça nous dit « fear involves torment ». En traduction, la crainte, ça l'implique le tourment. On va être tourmenté par l'ennemi parce que Satan, c'est un terroriste. Satan veut enlever votre paix. Il veut vous voler. Il veut siphonner votre jus. Il veut vous empêcher d'avancer. Il veut vous garder dans les ténèbres. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Ce matin, je vous donne des versets que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà ce que je viens de vous dire. Mais là, on est arrivé au point, si on veut vraiment vivre les promesses de Dieu et vraiment expérimenter la présence de Dieu et la paix surnaturelle, vous savez, on doit recevoir ces paroles comme des révélations dans nos cœurs. La connaissance révélée, agissante par la foi, chassera les ténèbres qui vous entourent. Je peux vous dire une chose concernant cette église. On est une église locale. Vous avez remarqué, on est situé dans une vraie ville. On n'est pas au ciel, donc on est une vraie église, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un réveillé ce matin? On est des vrais êtres humains, on vit dans des corps charnels, mais on marche par l'esprit. Mais si vous avez remarqué, on n'est pas encore au ciel. Avez-vous remarqué ça? Peut-être pas, votre vie est tellement glorieuse. Mais on ne vit pas encore au ciel, on vit les deux pieds sur terre. On est une église locale sur la terre. Mais il y a une des choses que vous devez connaître sur cette église, et vous le savez probablement très bien, on a un appel au-delà d'une région. Notre appel, c'est de rejoindre la francophonie. Amen, vous savez ça. On a un mandat de Dieu et une vision. Et c'est certain que chaque église a besoin d'être située à quelque part sur la planète parce qu'il n'y a aucune église qui flotte dans le ciel. Donc, on est tous une église locale. Mais cette maison a une vision de rejoindre les nations et c'est ça qu'on fait en ce moment. On rejoint les nations par l'Internet, par la radio, par toutes sortes de moyens. Et on n'a pas fini. Et je peux vous laisser savoir, en étant dans cette maison, vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Vous êtes des soldats et comprenez que nous sommes dans une guerre spirituelle. Je ne peux pas vous faire accroire des choses. L'ennemi va essayer de vous décourager. C'est normal. Et peut-être, vous allez dire, ben peut-être je devrais aller dans une église qui a un mandat plus simple pour ne pas vivre d'épreuves, ne pas vivre de temps de découragement, pour ne pas vivre des choses difficiles. Et peut-être, c'est vrai, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, mais il y a un prix à payer. Et c'est simple, le Seigneur nous dit exactement quoi faire. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Le Seigneur nous appelle vraiment à recevoir aujourd'hui la révélation de son amour, qu'on puisse recevoir aujourd'hui la paix surnaturelle. Et quand je parle d'une paix surnaturelle, c'est vraiment ça, enfant de Dieu. C'est vraiment surnaturel. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui arrivent, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand la paix surnaturelle de Dieu est là, on ne le sait pas, mais on a une paix en dedans. On ne le sait pas. Quelqu'un pourrait dire, mais regarde ta situation, c'est terrible, humainement. Et malgré ça, vous allez avoir une paix dans votre cœur. Vous allez dire, mais là, vous avez probablement passé du temps dans la présence de Dieu. Et là, le Seigneur vous a dit des choses. Mon enfant, je prends soin de toi. Ne sois pas inquiet, je prends soin de toi. J'ai ma main sur toi. Et en plus, vous êtes enrobé de la présence de Dieu. Donc, même si les gens ils ont une vision charnelle des choses, ils ne voient pas ce que vous vivez en dedans. Ils ne ressentent pas non plus la présence de Dieu que vous ressentez. C'est pour ça qu'on a besoin du surnaturel dans nos vies. Mais je vous dis tout ça pour dire, on est dans une église différente. pas meilleur que les autres. On a juste un mandat que Dieu nous a donné. Et donc, si vous êtes dans cette maison, on a besoin de comprendre que nous sommes vraiment dans une guerre spirituelle où l'ennemi veut vous empêcher personnellement d'appuyer l'œuvre de Dieu et il veut vous décourager même d'avancer dans votre vie chrétienne. Mais je crois que si le Seigneur vous a appelé parmi nous, c'est parce qu'en dedans, il y a un esprit d'un victorieux en dedans. Il y a un esprit en vous qui dit, même si l'ennemi attaque, même si je peux me sentir tout croche en dedans des fois, mais je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je sais que même s'il y a une guerre spirituelle autour de moi, je suis conscient qu'on ne vit pas dans un jardin de roses des fois. Je suis conscient qu'il y a des temps des fois où on doit lutter dans la prière et voir des choses se produire. Je vais continuer et je vais continuer à croire Dieu et je vais continuer à garder mes yeux sur le Seigneur Jésus parce que je sais que je suis victorieux en lui. Le Seigneur nous dit non seulement d'être affranchi de la crainte et de vraiment recevoir la révélation de son amour parce que sans ça, c'est impossible. Si on est rempli de crainte, c'est impossible pour nous vraiment de vivre dans la lumière parce que le Seigneur ne nous guide pas dans la crainte. En fait, vous savez, qu'est-ce qui se passe quand on marche dans la crainte? C'est qu'on détourne nos regards de la lumière de celui qui est amour, et on garde nos yeux ailleurs, on tourne littéralement le dos au Seigneur quand on vit dans la crainte. Et quand on s'inquiète de ces choses-là, de toutes sortes de choses, l'ennemi, il va vous donner un menu d'inquiétude. Mais lorsqu'on se détourne du Seigneur, et là, on garde nos yeux dans la noirceur, c'est certain qu'on va être découragé. Et je peux vous dire, l'ennemi, là, il va toujours se servir des vraies choses. Il va toujours se servir des vraies choses. Des choses qui sont dans vos vies. Il ne servira jamais d'un combat d'une personne en Afrique. Là, vous commencez à penser une personne en Afrique qui a des difficultés. Ah, oh, je suis tellement de mauvaise humeur aujourd'hui parce que je pense à ces Africains qui n'ont rien dans leur maison. Puis là, vous êtes frustré. Non, ce n'est pas comme ça. Ça va se passer avec des défis que vous avez dans vos vies. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est toujours des choses que vous vivez. Soyez affranchis aussi du tourment intérieur. On a parlé ici que la crainte amène cette chose qui va venir vous tourmenter. Mais là, le Seigneur nous dit qu'on doit être libéré des choses qui viennent nous tourmenter à l'intérieur, qui viennent nous décourager. Dans le psaume 43, verset 5, ici on voit le psalmiste qui dit « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Là, j'aime ça, là. On voit, il est en train de s'encourager encore une fois. Il dit, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il est mon salut, ça veut dire il est ma délivrance. Là, il est en train de dire, là, « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te sens tout croche? C'est ça qu'il est en train de dire. « Pourquoi tu te sens tout croche? Espère en Dieu. » Il est en train de donner un coup de pied dans le derrière, là. Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça prend des gens qui vont se battre pour leur destinée, qui vont se battre pour la lumière qui est devant eux. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Une des clés, si vous voulez sortir des ténèbres et marcher dans la lumière, premièrement, on doit obéir Dieu, c'est certain. On doit obéir Dieu quand Dieu nous parle, mais on doit le louer aussi. Une des façons, là, si vous ne savez pas louer, faut que vous appreniez à découvrir. Vous devriez découvrir et apprendre vraiment à louer Dieu. Pratiquez-vous chez vous. Pratiquez-vous à l'église. Pratiquez-vous dans votre auto. Louez Dieu. Commencez à dire l'opposé. Satan vient vous dire, t'es un moins que rien. Non, là, vous dites, non, je suis un enfant de Dieu. Mais combien de fois on le dit à l'église, on doit louer Dieu. Mais faut vraiment, vraiment le faire. Je vous dis, c'est la clé. Si vous voulez sortir des ténèbres, vous devez dire le contraire des mensonges que le diable vous dit. Vous devez vraiment prendre le mensonge, là, l'identifier. Ça, c'est un mensonge. Là, je vais dire l'opposé. Et au nom de Jésus, l'ennemi vous dit, mais t'es malade et tu vas aller de pire en pire. Là, vous dites, non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ses meurtrisseurs, j'ai été guéri. Là, vous croyez ça. Mais là, t'es pauvre, tu vas l'arracher, ça va aller de pire en pire. Non, mon Seigneur pourvoit tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. On remplace ça. Ah, mais là, toi et ton épouse, vous êtes en chicane, ça va finir en divorce. Oh non, le Seigneur, il a dit qu'on serait bénis, moi et ma famille, ça l'implique mon couple. Nous sommes bénis. Oui, mais tes enfants s'en vont chez le diable. Non, mes enfants, ils sont bénis. On fait partie de cette famille royale de Dieu. Mes enfants, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. On renverse ces choses-là. Amen. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime ça, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Peut-être que vous n'avez jamais passé par là et vous dites, ben, ce pasteur-là, lui, il vit des choses. Nous autres, on est super bénis, on n'a pas de problème. Gloire à Dieu pour vous. Peut-être un jour, l'ennemi va vous attaquer. Savez-vous, il va vous attaquer quand vous le dérangez. Mettez-vous à le déranger, là, il va vous attaquer. Si vous dites, ben là, je suis souvent attaqué, ben c'est parce que vous êtes vraiment dérangeant, gloire à Dieu. C'est vraiment vrai. C'est parce que vous le dérangez. C'est super, ça. Ben là, je vais aller m'écraser sur mon laurier, rien faire. Non, continuez, parce que vous allez voir la victoire et la destinée devant vous. Il y a une victoire pour vous, il y a une destinée pour vous. Mais il ne faut jamais abandonner. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il faut être conscient, on est dans une guerre. L'ennemi, là, il veut vous tirer comme une balayeuse, là, comme un aspirateur. Vous gardez dans le noir. Puis là, vous dites, au nom de Jésus, vous brisez ça. Et là, vous faites comme le psalmiste ici, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. Ça, c'est un décret. Il est mon salut et mon Dieu. Il est ma délivrance. C'est ça que ça veut dire, ma délivrance. Et là, il y a d'autres choses, d'autres pièges que l'ennemi peut venir. Il peut venir dans vos pensées, certainement. Il peut des fois vous semer des paroles d'envie. Dans Galates 5, 26, ça nous parle de l'envie. Dans 2 Corinthiens 10, 12, ça nous parle des comparaisons. Des fois, l'ennemi va dire, « Ah, mais comment ça, cette personne-là a telle chose, puis pas toi? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? » Et là, vous avez vos pensées dans des choses qui ne sont pas vraies. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'on a lu dans le Philippiens? Dieu ne nous invite jamais à se comparer. Il dit jamais, commencez à vous comparer et commencez à vous poser des questions, pourquoi ci, pourquoi ça? Non, il ne nous dit pas ça, parce que là, ça ne serait pas vraiment la vérité. Ça ne serait pas vraiment pur et aimable, qui mérite l'approbation et digne de louange. Savez-vous, ça ne vous bénit pas, ça, vous poser des questions de même. Avez-vous remarqué? Mais comment ça, elle a un manteau de fourrure, puis pas moi, ça fait 10 ans que je prie pour un manteau de fourrure. Mais pourquoi elle a ça? On ne le sait pas, mais toi, tu as un beau manteau de coton. Sois content. Non, mais c'est vrai. On le sait, on ne connaît pas toutes les réponses pour tout. Non, mais c'est vrai, peut-être vous êtes plus à la mode, puis vous ne savez pas. Tournez-vous vers Jésus et accueillez son amour aujourd'hui. Dieu veut vous affranchir de la crainte, Dieu veut vous affranchir du tourment intérieur. Mais la seule façon de vraiment arriver à marcher dans la lumière, c'est de tourner vos regards vers Jésus. Et accueillir vraiment son amour. Vous allez dire, oh, pasteur, on connaît tout ça. Savez-vous, on connaît plein de choses qu'on ne met pas en pratique. Avez-vous remarqué ça? Il y a plein de choses qu'on connaît. Je pourrais aujourd'hui continuer dans la série sur l'apôtre Paul et vous dire toutes plein de choses que vous allez découvrir, des nouvelles choses. Mais si entre-temps, là, vous êtes super à terre et découragé et vous avez du mal à vous lever le matin parce que vous voyez noir, bien, on n'a pas besoin d'apprendre présentement sur l'apôtre Paul. On a besoin de savoir comment se lever de notre lit. Hein, c'est vrai? Gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'enseignera rien avec un peu de substance. Ah, cette église-là, ils ne prêchent rien. C'est juste des affaires qu'on connaît. Non, c'est des choses qu'on connaît dans notre tête, mais qu'on a besoin de connaître dans notre cœur. Tournez-vous vers Jésus et accueillez son amour. Vous savez, dans Proverbe 13, verset 12, ça dit, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Des fois, on a toujours ce désir-là d'être aimé. On cherche à droite, à gauche. Là, on rencontre des gens au début, ils sont super gentils avec nous. On pense d'être aimé. Mais après, un bout de temps, on voit, bien là, il y a d'autres personnes qui arrivent, qui ont des difficultés. Là, après, les regards se tournent vers l'autre personne. Là, je me sens abandonné, délaissé. Là, après, ça dit, un espoir différé rend le cœur malade. On a pensé, on espérait vivre quelque chose, mais là, encore, on est dans l'attente. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Je dois vous dire, vous devez recevoir l'amour de Dieu premièrement. Ne cherchez pas l'amour juste des frères et des sœurs. C'est sûr qu'on veut être aimé par les gens, les frères et les sœurs. C'est certain. Qui veut être détesté? Il n'y a personne sur la planète qui aime ça. Hein? On veut tous être aimés. Ça fait du bien dans le cœur. Mais des fois, on ne le ressent pas toujours. Des fois, c'est juste comme ça. On ne le ressentira pas toujours. Donc, ce que vous avez besoin, premièrement, c'est de recevoir l'amour de Dieu en vous. Et là, le Seigneur, comme il vous aime, il va vous transformer, puis il va vous aimer. Puis vous allez dire, oui, mais je dois changer pour qu'il m'aime. Non, vous êtes le pire détestable sur la planète, il vous aime quand même. J'ai eu, comme vous savez, il y a quelque temps, des personnes dans une secte sont venues à notre porte. Puis moi, je leur disais que Dieu les aimait et que Dieu aimait tout le monde. Puis ils ont été vraiment surpris. Ils ont dit, ben là, Dieu n'aime pas les meurtriers. J'ai dit, oui, Dieu aime les meurtriers. Dieu n'aime pas qu'est-ce qu'on fait, mais Dieu aime tout le monde. Ben non, ça se peut pas. Dieu n'aimait pas Adolf Hitler. J'ai dit oui, Dieu l'aimait. S'il se repentait, il aurait été pardonné. Là, il a dit, ouais, mais Dieu nous aime quand on se repent, pas avant. J'ai dit, non, Dieu nous aime même quand on est détestable. C'est vrai, ça. Même on n'est pas fin, on est détestable. Est-ce que vous les aimez, vos enfants, même quand ils sont détestables? Ils font des mauvais coups. Ah, ben là, je t'aime plus. Non, Dieu nous aime quand même. Dieu nous aime quand même, même quand on est détestable. Là, c'est vrai. Mais là, une des choses, c'est que là, on vient comme on est, détestable. Peut-être que vous êtes déjà super gentil, merveilleux, mais Dieu vous aime merveilleux aussi. Mais là, quand vous venez à Dieu avec tous vos problèmes, comme vous êtes, vous vous aimez pas, tout ça, là, laissez Dieu vous aimer et son amour en vous va vous transformer. Il va vous changer. Là, je vais vous lire deux versets ici concernant l'amour de Dieu, des affaires que vous connaissez déjà, mais que vous avez besoin de recevoir. Dans Jérémie 31, verset 3, laissez le Saint-Esprit travailler vos cœurs aujourd'hui concernant cet amour qu'il y a pour vous. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Ah, j'aime ça. Est-ce que je peux le relire? De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et dans la Bible du Sommeur, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Dieu vous aime vraiment. On a besoin de revenir à cette vérité constamment. Parce que des fois, on tombe dans le piège de vouloir performer pour être aimé. On tombe dans toutes sortes de pièges. Puis si on peut vraiment être rendu parfait dans cet amour, vraiment que le Seigneur nous révèle comment il nous aime, même s'il y a des vents contraires, même s'il y a des choses difficiles dans nos vies, même si c'est pas un jardin de roses, on se rappelle le Seigneur même. Et puis, il y a de la lumière au bout du tunnel. Des fois, il peut y avoir des choses, des mensonges, il peut y avoir des oppressions, des choses négatives qui viennent contre moi. Mais je suis capable de relever la tête et voir la lumière est toujours là au bout du tunnel. Le Seigneur est toujours là avec les bras grands ouverts pour m'accueillir, pour venir me restaurer parce qu'il m'aime. Sophonie 3, 17, ça dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Méditez là-dessus pendant quelques instants. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence. Il ne vous répétera pas tous vos péchés tout d'un coup, là. Dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Il fera de toi sa plus grande joie. Si vous le laissez vraiment vous aimer, il fera de vous sa plus grande joie. Je veux juste lire un texte. Hier, comme on était à Montréal, chez le pasteur Fofi, il a lu un texte, puis ça m'a parlé, ça m'a béni quand on était là-bas. Et je veux vous lire ce texte-là dans Luc, chapitre 13, versets 10 à 13. Il est écrit, « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. » Ça, voyez-vous, c'est qui le méchant encore? Est-ce que ça dit, est-ce que voici, il y avait une femme possédée de Dieu qui la rendait infirme depuis 18 ans? Non, ça dit possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ici, on parle d'une situation physique. Elle était courbée. Et comme le pasteur Fofi lisait ce texte-là, moi, je pensais à mes frères et à mes sœurs, peut-être qu'ils étaient courbés, pas physiquement, mais d'une autre façon, spirituellement, courbés par le découragement, courbé par un poids. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ça, c'est Jésus que je vous présente aujourd'hui, la lumière au bout du tunnel. On ne peut pas s'en sortir sans lui. Il y a des gens qui ont dit, « Ah, ben, pour toi, là, Dieu, c'est une béquille. » Non, pour moi, Dieu, c'est mon ascenseur. C'est pas une béquille. J'ai besoin bien plus que ça. Pas juste une béquille. Non, non, donnez-moi l'ascenseur complet. C'est vrai. Je suis dépendant sur Dieu. On ne peut pas avancer un seul pas dans cette église sans que Dieu soit là, sans que son Saint-Esprit travaille parmi nous. On est totalement dépendant. Je peux vous le dire, on est dépendant sur Dieu. Puis je veux rester dépendant. Puis des fois, si on vous parle des projets, puis vous dites, ben là, c'est bien trop grand, ça. Oui, exactement. Ben comment vous allez arriver? On n'y arrivera pas sans Dieu. Ça prend toujours des miracles. Cette église a été fondée dans la prière, fondée dans le miraculeux. Vous connaissez l'histoire, comment on a démarré surnaturellement dans les finances. Vous savez, c'est toutes ces histoires-là, je ne répéterai pas tout ça. Mais cette église a été fondée dans la prière. et on va continuer dans la prière. Cette église a été fondée dans le miraculeux, puis on va vivre des miracles, puis il y a plein d'autres choses. On va vous annoncer dans les semaines à venir les choses qu'on va faire. Et puis des fois, vous allez être là, puis vous allez dire, mais ce pasteur-là, il rêve en couleur. Je l'ai toujours dit, puis je rêve en couleur. Ça coûte pas plus cher qu'en noir et blanc. On continue à rêver en couleur, et on continue à croire. On continue à croire grand. Moi, j'ai été accusé, là, des années. On m'a dit, toi, là, vraiment, là, t'es comme, tu t'attends à tellement des grandes choses de Dieu. Oui, coupable. C'est sûr que je m'attends à des grandes choses de Dieu parce que j'ai pas un petit Dieu dans une boîte. J'ai un vrai Dieu, un grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Donc, si il y a tout fait ça, est-ce que Dieu va nous appeler à faire des petites choses? Quand c'est impossible pour moi, ça me réjouit. Parce que ça veut dire que Dieu, il va être obligé de faire quelque chose. Il va être obligé de se présenter. Il va être obligé de faire quelque chose. Ce que Dieu m'appelle à faire, là, et ce que Dieu vous appelle à faire, lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez pas à POC, comme on dit en québécois. Ne lâchez pas. C'est vrai. Ne lâchez pas. Marchez avec lui. Mais pasteur, c'est difficile. Join the club. C'est vrai. C'est pas toujours facile. Mais pasteur, je vis des épreuves. Eh oui, ça fait partie de la vie, ça. Le diable m'aime pas. Ah, il me déteste, moi aussi. On est dans la même équipe. On est dans la même équipe, enfant de Dieu. Je termine. Ben, je sais que votre poutine vous appelle par votre nom. Il faut que je termine avec juste deux petits versets, ou trois ou quatre. Je termine très bientôt. J'ai dit toutes ces choses-là. Non seulement ce que le Seigneur nous dit, écoutez, je vous aime, comme abandonnez la crainte, faites-moi confiance, soyez dans la louange, restez connectés avec moi. Non seulement ça, mais Dieu là veut vraiment qu'on puisse avoir la révélation qu'il est notre refuge. Quand ça va mal, tournez-vous vers Dieu. Il y a des gens qui ont le réflexe de se détourner de Dieu. Des fois, quand il y a des gens qui ont eu des difficultés, ils disent « Ah, ben Dieu m'aime pas, il se détourne, puis je ne veux plus rien savoir. » Il y a des gens qui ont ce réflexe-là. Mais le bon réflexe, Dieu, vu qu'il est toujours bon, c'est toujours celui qui peut vous aider. Ne vous détournez jamais de celui qui vous aime et qui veut vous aider. Détournez-vous du diable. C'est lui qui vient contre vous. Des fois, c'est ça, quand les gens ils vivent des épreuves, « Ah, ben là, je ne veux plus rien savoir de Dieu. » Non, 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 on se détourne celui qui est pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tournez-vous vers Dieu. C'est lui qui va vous défendre. C'est lui qui est là pour vous. Le psaume 61, verset 3 ou 4, dépendamment de la version. « Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » En face de l'ennemi. Ça veut dire qu'il y en a des ennemis, mais en face de l'ennemi. Proverbe 18, verset 10. « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y retrouve et se trouve en sûreté. » Or, votre place de sûreté, c'est en Jésus aujourd'hui. Et Dieu nous dit comment vivre dans ce refuge. Il y a un refuge pour vous. Et je termine avec ceci. Dans Éphésiens 6, 11 à 17, vous pourrez lire chez vous. Mais ça nous dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous devez vraiment être revêtu des armes de Dieu. Vous pourrez prendre le temps de lire ça à la maison. Mais vraiment, c'est super important parce que quand l'ennemi attaque, on doit être revêtu. Une des façons, comme je vous ai dit, louer le Seigneur. Éphésiens 5, verset 16 à 21, vous pourrez lire aussi. Mais ça dit, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, en passant les choses qui viennent de Dieu, pas les choses qui viennent de Satan. Il y a toutes sortes de traditions qu'il faut enlever, là. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Entretenez-vous. Vous voulez être dans la joie. On veut tous être dans la joie. On veut tous être dans la paix. On veut sortir de la noirceur. Amen. Si on suit le Seigneur Jésus, il a dit on va être dans la lumière parce qu'on est en train de suivre le spotlight céleste. Hein, ça fait du sens? Vous suivez la lumière, vous allez vous-même dans la lumière. Mais là, il nous dit ici, entretenez-vous. Entretenez-vous. C'est ça la volonté de Dieu. Comprenez la volonté de Dieu. On doit s'entretenir parce que l'ennemi, lui, il va venir. Mais si vous êtes là, vous vous entretenez. Occupez-vous à le louer, à être dans sa présence. Et je termine avec Ésaïe 61, verset 3, mon dernier verset. Ésaïe 61, verset 3, ça c'est un verset qui me revenait toute la semaine. Dieu vous donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu vous donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ah, vous sentez c'est lourd, vous sentez l'abattement, un esprit abattu en dedans de vous. Louez le Seigneur. Ça fait pas de sens, mais c'est ça que je viens de prêcher. Ça fait pas de sens humainement. Mais louez le Seigneur quand ça va mal. Louez-le encore plus fort quand ça va mal. Louez-le plus longtemps quand ça va mal. Quand c'est noir, louez-le parce que vous commencez à décréter la vérité. Ah, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile à faire. C'est pas facile. On est dans une guerre spirituelle. Une guerre pour votre vie, certains d'entre vous. Il y en a, certains d'entre vous, peut-être, vous avez déjà été tentés par le suicide. L'ennemi est venu avec des pensées sombres pour vous garder vers le bas. C'est une guerre pour votre vie. C'est une guerre pour votre destinée. C'est une guerre. Mais aujourd'hui, si on est là et on dit, Seigneur, moi, je veux vraiment recevoir de toi ton amour. J'ai besoin de ton intervention. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on a à faire, nous? C'est se tourner vers lui. C'est de regarder à la lumière. C'est de regarder à la lumière et de trouver notre refuge en Jésus. C'est un message très simple aujourd'hui. Vous n'avez rien appris, mais c'est des choses que vous avez besoin d'entendre. Que moi, j'ai besoin d'entendre. Nous avons tous besoin d'entendre ça, enfants de Dieu. Ouais. Seigneur Dieu, je veux prier pour chaque personne dans cette église qui a besoin d'un rafraîchissement dans ta présence. Seigneur Dieu, je prie pour eux maintenant. Je prie, Seigneur, pour toute l'équipe de la louange, chaque personne en service, ceux à l'Académie de la foi en ce moment qui ont besoin de touche. Seigneur Dieu, on veut s'unir pour eux. On prie, Seigneur Dieu, pour cette maison. On te remercie, Seigneur Jésus, parce qu'on avance dans la lumière. On avance dans la lumière avec toi. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait parmi nous ce matin. Je te remercie pour le ciel ouvert sur notre vie. Pour les projets que tu as devant nous, des projets de paix et non de malheur. On veut te louer ce matin pour toutes les choses, Seigneur, que tu as accomplies parmi nous et pour les choses que tu t'apprêtes à faire parmi nous. Seigneur, je décrète sur chaque tête ta protection divine toute cette semaine, sur chaque personne dans cette église. Je décrète le shalom, ton shalom, rien de manquant, rien de brisé dans cette maison, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche, bonne semaine, un bon groupe vie. À dimanche prochain.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.